plus vous en mangez, plus vous maigrissez. Dans mes articles, revient souvent la notion d'enfumage. D'après le dictionnaire, le Robert, la définition familière est « trompé par des mensonges ». Nous pataugeons dans la surinformation, la désinformation et la mauvaise information. Celles-ci sont présentes partout et à chaque instant, et elles sont colportées, de plus, naïvement ou intentionnellement, partout et à chaque instant. Colporter des ragots naïvement ou intentionnellement produit le même effet sur celui qui les reçoit. Il est trompé. Mais sur le colporteur, les conséquences morales et spirituelles ne sont pas les mêmes. Blesser ou même tuer sans avoir eu l'intention de le faire est d'un point de vue de la moralité parfaitement excusable. Le contraire mérite une sanction sévère. Au-delà de la justice des hommes existe la morale, la justice suprême, celle de Dieu, de l'univers. Avec cette justice, on peut tromper le monde. Mais on ne peut pas tricher avec soi-même. Comprenez-vous? L'honnêteté morale, intellectuelle et spirituelle est une bénédiction lorsque vous la possédez. Et lorsque vous ne la possédez pas, c'est le travail d'une vie sur cette terre et peut-être plus encore, bien au-delà. Je n'ai pas toujours été honnête, mais je fais tout pour emprunter ce chemin avec foi et ardeur. Je dénonce très souvent cette malhonnêteté qui gangrène l'industrie alimentaire boostée par les profits. Dans le champ de l'alimentation, il y a bien évidemment la nutrition santé, ses régimes, ses philosophies, ses gourous, ses affirmations, ses certitudes. Je tombe régulièrement sur des articles qui sont des exemples de condensés d'affirmations aberrantes. Finalement, ce n'est pas trop difficile de tomber sur ce genre d'article. Malheureusement, il foisonne. La nutrition est si vaste et parfois si technique que l'on y perd son latin. Si on n'a pas un minimum d'expertise, il est quasiment impossible de déchiffrer ce langage d'initié. Des magazines et des sites spécialisés sont à pieds joints sur les allégations pseudo-scientifiques pour en faire des règles magistrales que vous gobez comme des poussins de 3 jours. Encore une fois, je comprends la complexité du sujet, mais prenez le temps de croiser les informations et de ne pas prendre pour acquis tout ce qu'on peut vous raconter. Voici le titre d'un de ces articles dont je ressors quelques extraits croustillants. Dans cet article, en l'occurrence, s'appelle « Top 21 des aliments brûle-graisse efficaces, le régime au naturel ». Dans le titre putaclic, il y a déjà un non-sens. J'imagine que du point de vue de celui qui l'a écrit, ça n'a pas grande importance. Ce qu'il veut, c'est que vous adhériez en masse à ce qu'il écrit ou à ce qu'elle écrit. D'ailleurs, l'article n'est pas signé. Car la seule idée qui prévaut est que l'article gravisse activement les premières places tant convoitées du référencement naturel. Tenez, à ce propos, il existe des professionnels de la rédaction d'articles qui ne connaissent rien ou quasiment rien des sujets qu'ils développent. Je peux vous en parler, j'ai discuté avec bon nombre. C'est vraiment un sujet que je ne connaissais pas et que je commence à connaître. Donc il se renseigne sur le moment et il glane des infos à droite à gauche et il les reformule pour en faire des textes acceptables par les bots des moteurs de recherche et particulièrement de Google. Donc, brûler la graisse signifie que l'aliment en question aurait une action lipotrope. L'hypotrope se dit d'une substance qui se fixe sur les graisses ou facilite leur transformation dans l'organisme. Eh bien, je ne connais pas un aliment naturel communément consommé qui aurait cette propriété. Je n'en connais pas un. À partir de maintenant, tout ce que j'ai extrait de cet article en question, eh bien, je le préciserai pour faire le distinguo entre ce qui est dit dans l'article et ce que je dis moi. Alors, d'abord, l'auteur de cet article a scindé donc son article en plusieurs groupes d'aliments, brûle-graisse. Donc, ce premier groupe, ce sont les fruits et légumes, donc brûleurs de graisse. Alors, voilà ce que dit l'article, hein. Donc, à chaque fois, je vais le préciser, hein, en disant, voilà ce que dit l'article. Ils permettent, voilà ce que dit l'article, ils permettent également une fonte des mauvaises graisses. Alors, je ne sais pas de quoi parle l'auteur. Donc, de quoi parle-t-il? Il y aurait donc de bonnes et de mauvaises graisses stockées. Alors, une fois de plus, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Que les choses soient claires, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises graisses stockées. C'est encore un signe évident de méconnaissance du sujet. Donc j'imagine que celui ou celle, hein, qui a écrit cet article fait la corrélation avec le bon et le mauvais cholestérol, hein, ce qui n'a rien à voir avec les graisses stockées. On est bien d'accord. Dans l'article, l'aubergine succulente est très efficace. Toujours dans l'article, l'aubergine est sans doute l'aliment brûle-graisse numéro un. En effet, une fois assimilé par l'estomac, ce légume a un pouvoir d'éponge sur les toxines et les graisses qui y pénètrent. Consommer cet aliment régulièrement aidera donc l'organisme à ne pas stocker les graisses. Hein? Donc ça, c'est extrait de l'article. Hein? Donc l'auteur parle d'un pouvoir d'éponge. Je ne sais pas de quoi il parle. Hein? Donc on comprend tout à fait l'image, hein? L'absorption de l'eau par une éponge, comme pourrait l'être, bon, d'après lui ou d'après elle, l'absorption des graisses par l'aubergine. Okay. En l'occurrence, concernant l'aubergine, cela se révélerait être de la magie, parce que je ne vois pas comment ce serait possible. L'unique intérêt de l'aubergine dans le cadre d'un régime hypocalorique est bien sûr sa faible teneur en calories, ainsi que sa richesse en micronutriments et en fibres. Continuons. Dans l'article, les légumes verts. Salade, choux, brocoli, la liste de ces aliments brûle-graisse semble infinie. Ok, donc aucun de ces aliments n'a de vertu brûle-graisse. Ils sont tous au plus peu caloriques. Toujours dans l'article, vous ne pouvez pas non plus ignorer le céleri de votre alimentation quotidienne. Ce légume vous aidera au mieux à éliminer la graisse. Okay, donc le céleri n'a aucune propriété qui permettrait d'éliminer la graisse. Ça n'existe pas. Toujours dans l'article, les champignons ont une haute teneur en iode, substance essentielle pour le fonctionnement de la thyroïde, glande qui brûle la graisse. Dans l'occurrence, là, il y a une faute à thyroïde, mais c'était dans l'article, donc je l'ai laissé en l'état. Donc faux! Les champignons ont en moyenne une teneur en iode d'un micron. Pour 100 grammes, alors que les besoins quotidiens en iode sont de 150 microns chez les adultes et de 220 à 290 microns chez les femmes enceintes et allaitantes, respectivement. Donc faites vite le calcul, hein, il va falloir en manger des kilos pour avoir une dose suffisante d'iode pour stimuler votre glande thyroïde. Donc malgré leur faible teneur en calories, donc c'est 1 kilo de champignons qui représenterait donc 10 microns d'iode, soit environ 4 à 5% des apports journaliers nécessaires, vous apporterez dans le même temps 300 calories, donc l'équivalent de 100 grammes de pâtes pesées crues. Je ne sais pas si vous, hein, vous voyez le rapport, ok? Donc c'est pas par sa richesse en microns. Que vous aurez une stimulation suffisante, en micron, pardon, en iode, que vous aurez une stimulation suffisante de la glande thyroïde, quoi. Donc là aussi, ce n'est pas juste. Voilà. On continue. Dans l'article, la courgette, vitamines et anti-graisse. Cette cucurbitacée, pauvre en calories et en sel, est un brûle-graisse par excellence. Donc, encore une fois, hein, comme tous les légumes, la courgette est hypocalorique, riche en minéraux, en fibres et vitamines, mais n'a pas plus de vertus brûle-graisse que n'importe lequel des autres légumes. Hein, ça n'existe pas. Ok, toujours dans l'article. Avocat, la légende raconte qu'il fait grossir, mais, trois petits points. Idée reçue, l'avocat fait grossir. Certes, c'est toujours dans l'article, hein, ce fruit est riche en gras, mais ce sont de bonnes graisses, dites graisses monoinsaturées, qui empêchent de stocker le gras. Donc là encore, il y a une confusion entre le bon et le mauvais cholestérol et les graisses saturées, polyinsaturées et monoinsaturées qui, selon l'auteur, auraient des actions sur la capacité de l'organisme à ne pas stocker tel ou tel gras. Donc, faux. Toujours dans l'article, consommer régulièrement un avocat aurait notamment un rôle dans la perte de la graisse abdominale. Bon là encore, on nage en plein délire. Hein. Il n'y a pas d'aliment qui aurait la faculté de vous faire perdre du gras à un endroit ciblé. Ça n'existe pas. Hein. Voilà, je sais que les articles fourmillent de ce genre d'allégations, hein, d'affirmations. Ça n'existe pas. Voilà. L'avocat est de plus un fruit très calorique, hein, plus de 200 calories pour 100 grammes, hein, issu principalement des lipides. Hein, je vous rappelle que l'on en fait de l'huile, hein, de l'avocat. Donc son poids moyen est d'environ 200 grammes. Ça signifie qu'à chaque fois que vous en mangez un, de taille normale, vous ingérez plus de 400 calories. Ce qui correspond approximativement à un quart, voire un tiers de l'ensemble des calories que vous devriez consommer sur toute la journée si vous avez des velléités de perte de poids. Bon, je précise que un quart, voire un tiers, représente une approximation, hein. Car en fait, le déficit énergétique ou l'alimentation hypocalorique censée vous faire perdre du poids est associée à de nombreux paramètres, hein, donc fonction principalement du métabolisme, hein, donc le métabolisme basal, donc ce sont les besoins énergétiques incompressible de l'organisme, le métabolisme postprandial qui est la dépense calorique consécutive à un repas. Hein. Donc, lorsque vous mangez, vous consommez de l'énergie. On appelle ça l'activité dynamique spécifique, ADS, qui reste toute relative. Et du métabolisme aussi qui est lié à de la dépense énergétique qui est liée à l'exercice. Donc, ça inclut l'effort physique ainsi que les efforts intellectuels ou de concentration, mais également donc tout le travail sportif et physique professionnel aussi. Hein, et puis vos activités physiques, je sais pas, pour jardiner, pour nettoyer la maison, enfin, etc., etc. Continuons. Dans l'article, la tomate. La tomate a le pouvoir de freiner l'accumulation de lipides dans le sang et agit comme un véritable purificateur contre l'accumulation de graisse. Donc, freiner l'accumulation de lipides dans le sang. Alors, mais là encore une fois, mais par quel miracle? Comment la tomate freine l'accumulation de lipides dans le sang? Et quel serait son pouvoir purificateur, hein? Quelles seraient là ou les substances contenues dans la tomate qui auraient le pouvoir de freiner l'accumulation des lipides dans le sang? Directement, moi, j'en connais pas. Hein, et de toute évidence, personne n'en connaît. À moins que ce soit, alors peut-être par extrapolation ou interprétation hasardeuse. Il y a de fortes chances que ce soit ça. Donc, le vrai pouvoir qui lui est conféré à la tomate, hein, c'est que c'est un fruit, et à ce titre, sa richesse en fibres, sa pauvreté en calories et en lipides, un casier inexistant, pardon, dans la tomate, ne viendrait pas alourdir de façon exagérée donc le bol énergétique global. Voilà. Hein, c'est-à-dire que c'est un fruit peu calorique. Voilà son intérêt. Donc elle serait de fait, elle serait pas un facteur d'obésité. Voilà. Et ni un facteur de cholestérol, ou elle n'accentuerait évidemment pas le cholestérol, ni le diabète, ni l'hypertension, évidemment. Donc voilà l'intérêt de la tomate. Et puis, bien évidemment, la richesse en anti-radicalaires, hein, en antioxydants, et voilà, ok, évidemment. Mais de là à ce qu'elle freine l'accumulation de lipides dans le sang ou qu'elle ait un pouvoir de purification contre l'accumulation des graisses. Bon, déjà, ça ne veut rien dire, et voilà. Ok. Dans l'article, les pommes. Avec environ 85 calories, la pomme est peu calorique et sachant que le corps dépense plus de calories à le digérer, environ 95, que le fruit n'en comporte, pourquoi donc se priver d'en manger? Donc ça, c'est dans l'article. Alors, oui, on parle ici d'aliments à calories négatives. Ok. Donc vous avez compris le principe, hein? Ceci apporterait moins de calories qu'il n'en faudrait pour les digérer. Donc c'est extraordinaire, quoi. C'est merveilleux, hein? Plus vous en mangeriez et plus vous perdriez du poids. On a tellement envie d'y croire à ce concept, et puis particulièrement en ce qui concerne la pomme, parce que les pommes, c'est sucré, c'est plutôt sympa. Voilà, donc ce concept de calories négatives, bon, négative à ce point, là, c'est exceptionnel, quoi, hein? Très en vogue, hein? Depuis une dizaine d'années. On s'est aperçu que finalement ce n'était qu'un mythe. Hein. Donc je vous ai mis un lien d'une nouvelle étude scientifique que vous trouverez dans mon article. Donc c'est disponible sur un site qui s'appelle BIOR14 en fait, BIOR 14 en chiffres romains. Donc c'est soumis à une publication donc dans le journal of Experimental Biology. Qui enterre définitivement cette idée extraordinaire que vous pourriez manger certains aliments, on va dire en toute impunité énergétique. Hein, donc je vous engage vraiment à lire. Alors, bon, il est en anglais, donc vous trouverez le lien hein, dans mon article, mais vraiment prenez le temps, déchiffrez-le. Voilà, ça fait tomber un peu le mythe de ces aliments qui finalement. Ce mythe, hein, je dis bien, de ces aliments qui finalement, plus vous en mangeriez, plus vous perdriez du poids, quoi, hein, puisque vous dépensez plus de calories que ce qu'ils en contiennent. Donc allez digérer, allez voir, bon, c'est une foutaise. Donc comme bien sûr, effectivement, il y a certains aliments qui sont riches en fibres et en eau et par conséquent peu caloriques. Donc ils demandent à l'organisme un travail énergétique qui est finalement assez important, hein, au regard des apports nutritionnels faibles qu'ils fournissent. Oui, effectivement, il y a un vrai travail de l'organisme. Mais la pomme ne demande en aucun cas plus d'énergie à votre organisme que ce qu'elle en contient. Enfin, vous comprenez bien que c'est une légende. Continuons. Dans l'article, les agrumes, aliments brûle-graisse par excellence. Donc le pamplemousse est un agrume riche en vitamine C et en papaïne, enzyme qui détruit les molécules de graisse. Ok, donc ça c'est une fausseté merveilleuse. Il n'existe à ce jour aucune étude scientifique qui prouverait qu'une enzyme de pamplemousse aurait la capacité de dissoudre quelque gras que ce soit. Une fois de plus, c'est un raccourci, donc mensonger, pour donner du fantastique à l'article qui amalgame l'absorption des lipides grâce aux enzymes et la faculté mythique de ces mêmes enzymes à pulvériser les cellules lipidiques. C'est une aberration, quoi. Donc là, je vous ai glissé à nouveau un court article hein, qui explique assez simplement l'action de certains enzymes appelées lipases. Hein, donc vous trouverez le lien dans mon article. Enfin, écoutez, j'ai encore sous le coude des dizaines de fausses affirmations dont vous êtes victime, hein, qui pullulent et qui polluent votre culture, en fait, culture générale minceur. Hein. Donc, je vais donc partager avec vous toutes ces aberrations et faire en sorte de les démystifier, de manière à ce que vous ne tombiez plus dans ces pièges grossiers. Hein, donc, je publierai donc régulièrement des articles sur ce sujet. Je trouve ça vraiment intéressant, et puis je pense qu'on apprend en fait lorsqu'on a vraiment l'impression de qu'on nous prend pour des cons, quoi. Excusez-moi hein, cette expression, mais je pense que eh bien, vous ferez attention dorénavant à ce que vous lisez et ne prendrez pas les choses pour argent comptant et croisez les informations, vraiment. J'espère que ce que je vous explique vous semble logique, donc prenez le temps de réfléchir avant d'agir.